Le Saint-Esprit dans le culte et les réunions de prière. Ce que nous avons relevé pour les réunions d'édification vaut aussi pour le culte, réunion pour célébrer le Seigneur, lui apporter louange, reconnaissance et adoration, et pour la réunion de prière, et s'applique même, dans une mesure encore plus forte, vu le caractère particulier de ces réunions. Dans le service de l'édification, ceux qui ont reçu un don de pasteur ou de docteur ont une position spéciale, car le Saint-Esprit emploiera la plupart du temps les dons donnés par le Seigneur. Ceux-ci sont, dans leur service, les instruments par lesquels Dieu parle aux personnes assemblées. Aussi est-il dit en 1 Pierre 4, verset 11,
« Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. »
Ce passage ne signifie pas seulement que ce qui est dit doit être conforme à la parole de Dieu. Cela va beaucoup plus loin. Il veut dire que sa parole doit être les oracles de Dieu, donc que Dieu doit parler directement par lui. Il en est autrement dans le culte et dans les réunions de prière. Là, ce n'est pas Dieu qui nous parle, mais nous, qui sommes assemblés, qui parlons à Dieu. Dans ces réunions, nous nous approchons pour offrir nos sacrifices de louange et d'action de grâce, ou pour présenter à Dieu nos besoins et nos soucis, mais pas pour recevoir quelque chose de lui, quoiqu'il ne soit naturellement pas possible que nous nous approchions de Dieu sans recevoir une bénédiction pour nos cœurs. C'est là que réside la différence fondamentale entre ces réunions. Et tout frère qui se lève durant le culte pour méditer doit être bien conscient de la chose. En parlant, il change le caractère de la réunion, car alors ce n'est plus l'assemblée qui offre à Dieu ses sacrifices de louange et d'action de grâce, mais l'assemblée qui écoute l'édification que Dieu veut lui donner par son serviteur. Il en est ainsi, quel que soit le sujet que le frère présente, donc aussi s'il parle, par exemple, des souffrances du Seigneur. Nous ne voulons pas dire qu'on ne doive pas faire de méditation dans le culte. Le Saint-Esprit est entièrement libre de diriger comme il veut. Et quand les chrétiens sont assemblés comme corps de Christ et que les membres s'emploient chacun à sa place, par l'Esprit, l'occasion peut se présenter d'exercer des dons pour l'édification. Une assemblée réunie pour le culte donne aussi, tout naturellement, l'occasion à tous les dons de s'exercer en vue de l'édification du corps, bien que ce ne soit nullement le but de la réunion. Le culte est tout aussi complet, et même davantage, lorsque aucun don n'est exercé. La manière dont les dons sont habituellement exercés fait que trop souvent, hélas, le caractère du culte est altéré et même perdu. C'est toujours une perte. Car même s'il est possible que l'Esprit de Dieu trouve nécessaire, aussi dans une telle réunion, d'enseigner ou d'exhorter les membres du corps, il n'en demeure pas moins que l'état de l'assemblée est meilleur quand elle peut adorer Dieu sans avoir besoin d'être exhorté. On est dans ce cas d'une manière plus simple et plus complète dans la proximité de Dieu, jouissant par la grâce de lui-même. Dans le culte et même dans les réunions de prière, les dons n'ont aucune place. L'assemblée est réunie comme famille sacerdotale. Chacun peut s'approcher de Dieu, le nouveau converti, comme le Père en Christ. Par le sang de Christ, tous sont constitués sacrificateurs et tous sont dignes d'offrir les sacrifices de louange et de reconnaissance. Cependant, bien des choses peuvent les en rendre incapables, Lévitique chapitre 21 et chapitre 22. Comme c'est pratiquement le propre d'un sacrificateur, du fait qu'il se tient continuellement dans la proximité de Dieu, de savoir comment s'approcher de Dieu, d'une manière qui lui soit agréable, Et quels sont les sacrifices que Dieu agrée? Il est évident que cela n'a rien à faire avec le don de pasteur ou de docteur, ou avec la capacité de s'exprimer couramment en paroles choisies. Il est très possible que ces dons soient là, et que malheureusement une communion intime, journalière avec Dieu, fasse défaut. Il n'est donc certainement pas bon de s'attendre à un frère ayant un don manifeste, ou que celui-ci veuille prendre de lui-même, en raison de ce don, une place prééminente dans le culte. Et ce danger est grand. La direction du Saint-Esprit dans le culte en devient encore plus importante, car il veut employer là un cercle de frères plus étendu que dans les autres réunions, et qui d'autre que le Saint-Esprit peut diriger dans l'adoration. Il est vrai que celle-ci résulte de l'état spirituel des personnes présentes, mais la puissance, la seule source vivante de tout ce qui est vrai dans l'adoration, est le Saint-Esprit. Dans sa souveraineté, il agit en accord avec la capacité spirituelle de chacun et s'en sert pour exprimer les sentiments qui conviennent à l'assemblée devant Dieu et les faire monter à lui. Ce qui se produit dans le culte doit, tout en étant en accord avec l'état spirituel de l'assemblée, élever celle-ci et l'amener dans la proximité de Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Car bien qu'il opère dans l'homme, il le fait selon la puissance et la grâce de Dieu. Quel frère pourrait mesurer l'état spirituel de l'assemblée pour donner expression à ses sentiments et être ainsi vraiment la bouche de cette assemblée? Car tous ceux qui rendent grâce, qui indiquent un cantique, ou qui lisent une portion de la parole ne doivent pas seulement exprimer leurs propres sentiments, mais ceux de l'assemblée. Il est cependant vrai qu'ils ne peuvent le faire que dans la mesure de leur état spirituel. Ce n'est que par le Saint-Esprit agissant dans des hommes spirituels, pour exprimer les sentiments spirituels de l'assemblée, que l'adoration est offerte à Dieu. Nous voyons là de nouveau combien il est important de prêter attention à la direction du Saint-Esprit. La vérité que le Saint-Esprit doit être libre d'agir comme il veut n'est niée par aucun chrétien. Mais il y a une grande différence entre la connaissance d'une vérité et sa réalisation effective. Pour pouvoir mettre en pratique cette vérité, il nous faut être pénétrés de la réalité de la présence personnelle du Saint-Esprit. Il est Dieu, le Saint-Esprit, dans nos réunions. Cela ne fait-il pas très souvent défaut, et n'est-ce pas là la cause de tant de faiblesses et de l'action si fréquente de la chair au milieu de nous? Et maintenant, la question suivante peut se poser aux jeunes croyants et à ceux qui ne connaissent pas en pratique dans les réunions ce que c'est que se placer sous la direction du Saint-Esprit. Comment puis-je reconnaître cette direction, et comment puis-je savoir si ce n'est pas ma propre volonté qui me pousse, par exemple, à indiquer un cantique? Il y a, en fait, relativement à la direction effective du Saint-Esprit, des choses qui ne peuvent être apprises que par la pratique. L'expérience nous permet de déceler des besoins que seul un enseignement divin peut satisfaire. Et qui aurait la prétention d'indiquer de quelle façon l'Esprit opère dans les cœurs pour leur donner l'assurance de ce qu'est sa volonté? Ce que Jean chapitre 3 dit au sujet de la nouvelle naissance.
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va.
Peut certainement aussi être dit de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs des croyants. Mais d'un autre côté, la parole de Dieu donne également à ce sujet de précieuses indications. Tout d'abord, nous avons les principes énoncés en 1 Corinthiens 14.
Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, que tout se fasse pour l'édification. afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
Tout ce qui est fait doit l'être pour l'édification. Il faut qu'il y ait de l'ordre, ce qui se montrera, selon les versets 26 à 33, en ceci que deux ne doivent pas agir en même temps, mais s'attendre l'un l'autre.
1 Corinthiens 14, versets 26 à 33. Qu'est-ce donc, frères? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, a une révélation, a une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux ou tout au plus trois qui parlent et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée et qu'il parle à soi-même et à Dieu, et que les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres jugent. Et s'il y a eu une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints.
En outre, la direction du Saint-Esprit ne ressemble pas à l'action d'esprits démoniaques, forçant leurs victimes à agir comme ils veulent.
Les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes.
Le Saint-Esprit fait connaître ses pensées et donne la capacité d'agir, mais la personne en cause peut agir en conséquence ou aussi ne pas le faire. D'autre part, 2 Timothée 1, verset 7 dit
« Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. »
Nous ne devons donc pas agir d'une manière inconsidérée, mais avec calme, conscient de ce que nous faisons. Cela ne doit pas non plus être dans un esprit de crainte, mais dans la confiance que si nous attendons vraiment dans la dépendance, il agira aussi dans nos cœurs d'une façon manifeste. Et lorsqu'il le fait, il convient de l'accepter et de ne pas se demander craintivement « En était-il bien ainsi ?» Se pourrait-il que Dieu attende de ses enfants qu'ils se laissent diriger par le Saint-Esprit et ne leur donne pas ensuite la direction qu'ils attendent dans la dépendance? Si nous connaissons l'amour de Dieu et que l'amour habite aussi dans nos cœurs, un tel sentiment de méfiance ne peut pas exister. Ayons confiance en lui. Le Saint-Esprit n'agit pas par des ressorts cachés ou par des impressions vagues, peu claires. Il remplit l'intelligence spirituelle des pensées de Dieu, telles qu'elles sont développées dans la parole écrite de Dieu, tout en éveillant les sentiments et les affections de l'homme nouveau. Il produit dans nos cœurs, en corrélation avec ce qu'il a déjà opéré avant par d'autres, des sentiments de reconnaissance, de louange et d'adoration que nous pouvons exprimer comme bouche de l'assemblée. En relation avec le courant de pensée qu'il a produit dans la réunion, il dirige nos esprits sur un cantique ou un passage de la parole de Dieu, afin que nous indiquions ce cantique ou lisions cette portion. Mais cela implique d'abord qu'il ne peut nous employer librement que dans la mesure où nous connaissons la parole de Dieu et les cantiques, et ensuite que nous ayons toujours soin d'examiner si c'est bien en accord avec la pensée générale donnée par l'Esprit dans cette réunion. Il est très important de nous demander quand est le moment de faire ce que le Saint-Esprit suscite dans nos cœurs, ni trop tôt, ni trop tard, afin qu'il n'arrive pas que deux frères agissent ensemble, bien que peut-être le Saint-Esprit veuille les employer tous deux successivement. Si nous nous placions tous ainsi sous la direction du Saint-Esprit, tant frères que sœurs, quelle réunion heureuse nous aurions! Dans quelle attente solennelle et tranquille serions-nous de ce qu'il veut faire? Quelle unité y aurait-il dans tout ce qui se produirait? Quelle adoration monterait à Dieu du cœur de toutes les personnes présentes? Combien le nom de Dieu serait glorifié, et quelle bénédiction pour nos cœurs! Nous sommes arrivés à la fin de nos considérations sur le Saint-Esprit. Ne devons-nous pas dire, en conclusion, que l'habitation du Saint-Esprit sur la terre, dans le cœur de chaque croyant et dans l'Assemblée comme tout, est une des vérités les plus importantes de notre époque, si ce n'est la plus importante. Dieu veuille que cela se grave profondément dans les cœurs et de celui qui écrit et des lecteurs, afin que nous le réalisions davantage dans notre vie.